Mais quelle idée ! Quelle idée de lire ce récit de la tentation des premiers êtres humains pour un culte de Pâques ! Quel est donc le rapport entre le sifflement d'un serpent séducteur et la victoire de la vie sur la mort ? À la fête de Pâques, nous ici présents comme nos contemporains, nous y associons, c'est vrai, différents animaux. Mais il s'agit plutôt du lapin, de la poule ou encore de l'agneau. Point de serpent. Alors, c'est peut-être une première. Quand on parle d'un serpent dans un lieu chrétien, on pense bien sûr tout de suite à celui du deuxième chapitre de la Genèse et du troisième. Nous venons d'entendre une partie de l'histoire de ce serpent séducteur qui propulse Adam et Ève hors de l'Éden. Et puis dans la suite, vous connaissez peut-être la suite de l'histoire au chapitre 3, ce serpent va recevoir sur lui la malédiction de Dieu. Dieu lui dit, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Bien. Pour un culte de Pâques, il y a sûrement plus réjouissant. Mais pourtant, voilà, c'est ce serpent, ce matin, cet animal maudit qui rampe sur son ventre et qui mange la poussière, qui revient sur nos talons en ce jour de Pâques. Beaucoup de personnes détestent les serpents, vous en faites peut-être partie. Certains sont même paralysés à sa vue ou rien que le fait d'y penser ne sont pas très à l'aise. Un été, dans un sous-bois, dans le midi de la France, j'ai été le témoin de l'agonie d'une couleuvre. L'animal blessé se tordait dans tous les sens, la bouche ouverte, écumant. Triste spectacle mêlant le dégoût et la pitié, de voir ce serpent qui se débattait à terre dans un combat pour la vie. Cette expérience m'a renvoyé une image pour notre méditation du jour de Pâques. Le combat de la vie et de la mort. Ce combat fait partie des miens, peut-être aussi des vôtres. L'image d'un être qui se débat avec la vie, avec sa vie. Un être humain qui s'agite ici et là dans sa vie familiale, professionnelle, amical. Un être humain en combat qui bouge, dépense de l'énergie et qui, parfois, dans les moments de désarroi, a l'impression de rester ventre à terre, mangeant la poussière. Le serpent. Mais qui donc est-il pour mériter une telle réputation ? La Bible nous dit qu'il était le plus avisé de tous les animaux de la campagne. On sait aussi que c'est celui qui mène loin de Dieu, le tentateur. Ce serpent, nous l'entendons siffler à nos oreilles quand la souffrance prend en nous le dessus. Je crois que ce serpent est toujours présent dans chacune de nos vies. On peut l'entendre à chaque fois que l'on veut nous mener loin des valeurs de l'Évangile. Quand dans mon quotidien, je choisis le rejet plutôt que l'accueil, la haine plutôt que l'amour, l'arrêt plutôt que la marche, la mort plutôt que la vie. Mais souvent, il est vrai, quand nous sommes englués dans ce qui nous arrive, c'est la plupart du temps la voie la plus facile. Alors, comment faire ? Comment faire taire en nous les sifflements du découragement ? Je vais vous raconter une petite histoire imagée et symbolique. Vous la connaissez peut-être, c'est l'histoire du diable qui fait son marché. Est-ce que vous la connaissez, cette histoire ? C'est imagé, n'est-ce pas ? On annonçait un jour que le diable fermait boutique et qu'il offrait de vendre ses outils à quiconque voudrait en payer le prix. Le soir de la vente, ils étaient tous là, présentés de façon attrayante. Une bien sinistre collection. Méchanceté, haine, envie, jalousie, hypocrisie et mensonge. Et j'en passe, ils étaient là, tous étalés, chacun avec son prix. Placé à l'écart de tout le reste, il y avait un outil à l'aspect inoffensif, en forme de coin, très rusé et mis à prix bien plus cher que tous les autres. Quelqu'un qui était venu là faire son marché demanda au diable ce que c'était. « C'est le découragement, dit-il. Mais pourquoi donc le prix est-il si élevé ?» Parce que, répliqua le diable, il m'est plus utile que n'importe quel autre. Je peux forcer mon chemin et m'insinuer à l'intérieur de la conscience de quiconque avec cela. Alors que je ne pourrais m'en approcher avec aucun des autres outils. Et une fois à l'intérieur, je peux m'en servir de la façon qui me convient le mieux. C'est bien pour cela qu'il est tellement usé. Je l'utilise avec tout le monde. Est-il nécessaire d'ajouter que le prix demandé par le diable pour le découragement était si élevé qu'il ne fut jamais vendu? Il est encore dans ses mains et il continue à s'en servir. Le serpent. Le serpent, vous l'avez peut-être entendu et reconnu vendredi soir. Ici ou ailleurs, si vous avez assisté à une veillée du Vendredi Saint. Au jardin du supplice, l'arbre de la mort laisse tomber ses fruits. Le peuple en grande foule monte les sentiers, tel un long serpent qui s'enfuit et soulève la poussière. Ce peuple qui monte efface sur le sable toute trace de pas. Et en haut, au calvaire, Jésus est là. Comme un serpent qui s'enfuit ventre à terre aux vibrations des pas, tout l'entourage de Jésus avait fui sa présence durant sa montée à la croix. Ils étaient pourtant encore nombreux à l'acclamer quelques jours avant, quand il est entré à Jérusalem pour la fête des rameaux. Mais depuis le dernier repas, c'était la débandade. Vous le connaissez. Ce récit de Marc est une suite de trahisons et de fuites. L'histoire de Judas, qui livre son maître par un baiser. Pierre, qui affirmait haut et fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » On connaît la suite. Au deuxième chant du coq, Pierre avait déjà renié deux fois. « Je ne connais pas cet homme, » disait l'apôtre téméraire. Il y avait aussi ce curieux jeune homme à Gethsémané. Voici comment le texte biblique relate ce qu'il s'est passé. Un jeune homme suivait Jésus, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit nu. Un peu comme si devant la furie des accusateurs de Jésus, devant la violence de l'humanité qui frappe, devant un tel déchaînement, les disciples n'ont qu'une seule solution. La fuite. Fuir et se retrouver nu, comme ce jeune homme. Si bien qu'au matin de Pâques, il n'y a eu que trois femmes pour accomplir ce qu'elles pensaient juste de faire au corps de leur maître. Je vous invite à écouter maintenant comment l'évangile de Marc raconte l'arrivée des femmes au tombeau. Antoine, pas trop vite. Pas trop vite.
D'accord. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau, de bon matin au lever du jour. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. » Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
Marie-Madeleine. Marie, mère de Jacques et Salomé, voilà trois femmes, les dernières fidèles de Jésus qui le suivent jusqu'à la mort. Marie-Madeleine, Marie et Salomé, trois courageuses qui, tôt le matin, bravent le danger pour aller trouver le corps de leur Seigneur bien-aimé. Les lois de l'époque interdisaient d'ouvrir un tombeau. D'où cette question qu'elle se pose. Qui va pour nous rouler la pierre ? Les voilà, ces trois femmes, remplies de chagrin, de questions. Remarquent-elles que le soleil de Pâques s'est déjà levé ? Armées de leurs aromates, elles arrivent au tombeau et, première surprise, la pierre est déjà roulée. Cette découverte ne les décourage pas. Elles continuent et que voient-elles ? Un jeune homme assis à droite. Un jeune homme, cela ne vous rappelle rien ? Souvenez-vous, un jeune homme suivait Jésus, vêtu d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit nu. Dans les deux passages de l'évangile de Marc à Gethsémané et au tombeau, ce même Néaniskos, ce même jeune homme en grec, est présent. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit peut-être alors du même jeune homme ? Ou bien est-il un ange ? Est-il encore le disciple bien-aimé ? Est-il Jésus lui-même ? Peut-être que finalement cela importe peu. Ce qui est essentiel, c'est que ce jeune homme, on le quitte dans la fuite et nu, au cœur de la mort, et on le retrouve assis et vêtu, avec la vie en triomphe. Que s'est-il passé ? Il a reçu la vie, Jésus est ressuscité. Ce jeune homme, premier témoin de la résurrection, a vu le tombeau vide et il a retrouvé sa dignité d'homme assis et habillé, stoppant par là sa fuite. Paradoxalement, on peut aussi relever que le fait que Jésus se soit relevé des morts a fait asseoir le jeune homme en fuite. Je dis souvent à cette place que suivre Jésus, c'est être en marche. Je le dis très souvent. Et pourtant ici, on nous dit que accueillir la résurrection, c'est être assis. Peut-être est-il nécessaire d'avoir ce moment de calme pour pouvoir ensuite se mettre en marche. Peut-être est-il nécessaire de constater d'abord la résurrection avant de cheminer dans la foi. Un temps de calme, un temps de paix intérieure dans nos existences, un événement qui met fin à nos courses effrénées et à nos fuites en avant. Voilà ce qu'est la résurrection pour nos vies. Un moment de calme, de paix intérieure dans nos existences. Un événement qui met fin à nos courses effrénées et à nos fuites en avant. Voilà la résurrection pour nos vies. En somme, la résurrection, c'est une expérience qui fait taire en nous les sifflements du serpent. comme un silence bienfaisant dans le brouhaha ambiant. Et en même temps, il n'y a aucun effet magique à la résurrection. Car dans nos textes, regardez les femmes. Le témoignage du jeune homme. La vue du tombeau vide n'a pas stoppé leur fuite. Qu'est-ce qui se passe après ? Elles sont prises de panique, nous dit le texte. Elles courent et s'enfuient loin. Parce qu'elles ont peur. Et l'évangile de Marc s'arrête là, au verset 8. Dans nos Bibles, il y a quelques versets qui poursuivent, mais initialement, l'évangile de Marc s'arrêtait au verset 8. Les femmes s'enfuient car elles ont peur. Il est intéressant de recevoir cet évangile dans cette version. Nous laissons à nous de décider si nous voulons avoir peur, fuir, ou si nous voulons croire. Croire au tombeau vide. Croire que celui que l'on cherche n'est plus au tombeau, mais qu'il nous attend sur les chemins de nos vies. Croire et s'asseoir à la droite du jeune homme dans le creux du tombeau vide. Croire, s'asseoir, puis se lever. Se relever pour repartir serein dans nos vies. Pour dire oui, je crois. Oui, Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Oui, il est vraiment ressuscité. Amen.